Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus, d'éteindre vos téléphones, de fermer vos ordinateurs. On va décélérer tous ensemble dans cette petite bulle rendez-vous des élèves proposée par les élèves de l'INET. La décélération, donc, j'aurai l'honneur d'animer. Je vais rester sur la forme en tant qu'administrateur. J'aime bien déléguer le fond. Donc, merci beaucoup à mes camarades Steve, Mylène et Lucie sur cet atelier décélération. On va parler politique publique. On va rentrer dans les arcanes de l'administration. On va parler évaluation. Et l'idée, c'est dans une demi-heure, on vous fait cette présentation. Et puis après, on se laisse 10 minutes, 15 minutes de questions, réponses, de réactions, tout ce que vous voulez pour pouvoir parler de ce merveilleux sujet. Et pour commencer, Steve, une petite introduction pour définir le concept et introduire l'atelier. Merci beaucoup.
Le temps long a-t-il encore des vertus ? La société postmoderne est celle du développement des réseaux et de la circulation rapide d'informations. On les connaît, les philosophes et les sociologues, de Jean-François Lyotard jusqu'à Armut Rosa, étudient ce phénomène qui n'est pas sans affecter la qualité de vie des administrés et nos capacités d'action face aux enjeux de développement durable. La pause à laquelle nous a forcé l'épidémie de Covid-19 a mis en relief le phénomène d'accélération et a fait redécouvrir la lenteur. Elle a aussi montré que l'échelon territorial est celui de l'action publique rapide et de proximité. Dans quelle mesure la décélération doit devenir un facteur de décision, voire un indicateur de qualité dans les projets publics? Certains établissements publics, comme les bibliothèques territoriales, se conçoivent déjà comme un écrin de décélération. Quels lieux de l'action publique peuvent offrir des espaces de décélération? Comment intégrer le concept de décélération dans la prise de décision? Comment penser le rapport au temps? Notre réflexion s'appuiera sur quelques exemples de projets territoriaux qui conçoivent le temps et ses effets sur la vie locale des administrés. Pour être tout à fait rigoureux, il conviendrait de définir quelques termes dont on pourra parler au moment d'échange qui va suivre. Vous verrez qu'on ouvre beaucoup de questions, on ne répond pas à tout, c'est pourquoi vos interventions en deuxième partie nous intéressent beaucoup. D'abord, la décélération, c'est quoi ? Appliquée aux services publics locaux, peut-être peut-on se dire que cela consiste en la dilution de la fréquence des sollicitations ou des délais pour accéder à un service, c'est-à-dire un vecteur de bien-être pour l'administré. Et un espace de décélération, on peut le concevoir comme un espace recevant du public où l'administré se rend librement, sans contrainte administrative, pour bénéficier d'un service par le temps, avec une dimension interne que possède la décélération, c'est-à-dire une dimension managériale. C'est aussi vecteur de bien-être pour les agents.
Alors, pour rentrer un peu dans le concret de cette présentation, trois grandes parties. La première partie, on va rentrer dans les politiques publiques. Comment intégrer, questionner cette logique de décélération dans les politiques publiques. Puis on va rentrer dans les arcanes, j'aime beaucoup cette formule, de l'administration pour essayer de voir comment influencer l'action administrative par la décélération. Et puis enfin, on parlera d'évaluation parce que la décélération est aussi un moyen d'évaluation. Pour les politiques publiques, Mylène, il y a finalement un double paradoxe. D'abord, on a des outils de plus en plus performants, de plus en plus élaborés, de plus en plus rapides, et pourtant, on a le sentiment d'avoir de moins en moins de temps. Et puis, le deuxième enjeu, c'est que l'usager est en demande constante de réactivité, d'efficacité de l'action publique, et en même temps, comme dirait l'autre, il s'agit de co-construire les politiques publiques, d'associer le citoyen, mais ce qui amène à rallonger la décision publique sur ces questions. Comment penser la décélération, Mylène ?
Voilà, donc pour commencer, effectivement, Pierre, on observe un paradoxe aujourd'hui. C'est qu'on a une société où on a une triple accélération, une accélération technique, une accélération du changement social, une accélération des modes de vie. Et on aurait donc pu penser pouvoir, grâce à cette triple accélération, répondre au bénéfice de tous à ces demandes d'accélération qui semblent émaner des usagers, à ces demandes de toujours plus de rapidité. Et pourtant, on n'a jamais eu autant l'impression de manquer de temps. Et en fait, on se rend compte que cette demande d'accélération qui semble émaner de l'usager et auquel on semble, nous, vouloir administration répondre, est en fait pleine de dangers. Tout d'abord, je dirais que l'accélération, c'est d'abord un danger pour l'individu qui est à la fois demandeur et victime de cette accélération. À titre d'illustration, on rappelle que le burn-out est souvent cité comme la maladie du siècle, puisqu'aujourd'hui, effectivement, l'individu est pris par cette accélération et du rythme de vie, plus par la peur que par l'envie. C'est-à-dire que c'est la peur de perdre son emploi, c'est la peur de descendre dans l'échelle sociale. Il y a une pression de la société pour qu'il reste dans le jeu, pour que l'individu reste dans le jeu. La modernité ne valorise que l'homme pressé. Et du coup, cet individu qui part au plus pressé ne prend plus le temps d'accomplir des tâches qui fassent réellement sens pour lui. Donc ça, c'est un premier danger. Autre danger de l'accélération, c'est des dangers plus larges sur la société. puisqu'en fait, tous les domaines ne peuvent pas être accélérés sans risquer de les modifier ou de les détruire. C'est notamment le cas de la démocratie, ça a été plusieurs fois répété d'ailleurs depuis ce matin, qui est un processus par nature chronophage, puisqu'il ne s'agit pas simplement de prendre des décisions, mais surtout et avant tout de parvenir à une compréhension commune des problèmes afin de créer du consensus. Ce qui demande d'autant plus de temps que les sociétés aujourd'hui sont complexes, qu'elles sont pluralistes et que les questions envisagées sont là encore très complexes. Et c'est un temps qui parfois manque. En parallèle, cet individu qui est pressé, qui subit ce rythme de vie accéléré et la perte de sens qui l'accompagne, a tendance à se détourner de la démocratie. On témoigne des taux d'abstention de plus en plus importants. Et quant au débat lui-même, il se fait lui aussi sur un mode accéléré, ce qui se traduit en fait par une opposition de point de vue. Il n'y a plus vraiment de consensus qui se crée. Il suffit de voir les débats sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Et enfin, un dernier point que je voudrais soulever, c'est que cette accélération aggrave également les fractures entre les services publics et les usagers. Puisqu'effectivement, pour répondre à ce qu'on pensait être cette demande des usagers à plus de rapidité, on a développé la e-administration, donc toujours plus de services en ligne pour que l'usager puisse son canapé, puisse à tout moment déclarer ses impôts, signaler un réverbère en panne, etc. L'offre croise sans arrêt. Or, en fait, dès 1973, le philosophe Ivan Illich avait alerté sur un phénomène qui était que dès qu'un moyen était institutionnalisé par la société industrielle, par souci justement d'efficacité ou de rapidité, ce moyen finissait toujours par devenir dysfonctionnel et nuire au but qu'il s'était censé servir au départ. Et la e-administration s'est de fait trouvée confrontée à ce phénomène. Dès 2018, par exemple, on a eu un bug du site de l'ANTS, donc pour les cartes grises, qui fait que 300 000 cartes grises se sont retrouvées en attente pendant des mois. Et encore en septembre 2022, un nouveau bug, encore pendant une dizaine de jours, a bloqué toute vente de véhicules en France pendant une dizaine de jours. Donc, question rapidité, on repassera. Et en plus, cette accélération vers toujours plus de services en ligne, donc de e-service, est venue là encore renforcer la fracture de la société, puisque rappelons quand même qu'un tiers de la société française souffre actuellement d'électronisme et qu'on peut très bien aujourd'hui maîtriser l'informatique et demain être totalement has-been parce qu'il y aura une mise à jour de votre logiciel et que vous ne maîtrisez pas cette nouvelle mise à jour. Or, si vous ne maîtrisez pas le numérique, au final, vous n'avez pas accès aux services en ligne et vous perdez vos droits. Donc là, il y a quand même un problème. Et enfin, cette accélération vers toujours plus de services en ligne est venue couper les liens entre l'administration et les usagers, puisque pour l'administrer, l'administration, maintenant, c'est en général son écran d'ordinateur. Voilà. Et pour l'agent, justement, un agent qui s'est engagé pour le service public par goût de servir l'usager, il ne voit plus l'usager, et ce qui le confronte à une perte de sens dans son travail. Donc on le voit, l'accélération n'est pas forcément la solution miracle, ce qui nous pose la question alors de comment renouer justement les liens entre administration et usager pour les bénéfices de tous. À ce sujet, je voudrais m'arrêter quelques minutes sur un exemple atypique qui est celui des supermarchés, qui justement ont été les premiers à vouloir développer ces caisses automatiques rapides, etc. Et en fait, depuis quelques temps, certains supermarchés, de plus en plus d'ailleurs, ont mis en place un nouveau service pour leurs clients. C'est ce qu'ils ont appelé les blabla caisses. Donc, c'est des caisses qui sont justement des caisses lentes où on peut prendre le temps de discuter avec l'hôtesse de caisse. Alors, l'idée des supermarchés n'est pas de supprimer les solutions d'encaissement rapide. C'est d'apporter en fait une autre solution en parallèle pour permettre de refaire du lien social entre les clients et le magasin. Du côté des services publics, bien sûr, on peut citer les bibliothèques ou les maisons France Service ou encore les médiathèques numériques qui tentent de renouer des liens avec les usagers que la numérisation des services est venue fragiliser. Mais plus largement, en fait, il faut aujourd'hui, je pense, réfléchir à la manière de repenser notre rapport au temps, puisque la manière dont on passe le temps, dont on conçoit le temps, c'est au final, c'est se poser aussi la question de la vie que nous voulons mener. Et il faut sortir donc du piège que constitue la simple distinction conceptuelle entre plus rapide et plus lent, et penser plus largement à une nouvelle manière d'être au monde. Et justement, certaines villes ont fait ce choix de penser différemment le rapport au temps, avec en cible la volonté de remettre la qualité de vie au centre de l'action publique. Donc je m'arrêterai sur deux exemples. D'abord, le mouvement des Slow Città, qui a commencé en Italie, notamment avec la petite ville italienne d'Orvieto, donc à la fin des années 90, qui était marquée par la circulation, le bruit, l'embouteillage, l'énervement, enfin voilà. Et donc, les élus et les agents, bien sûr, ont agi pour replacer la qualité de vie au cœur de la ville. Donc, au revoir les voitures, au revoir les parkings, bonjour les bancs publics à la place des places de stationnement. Au final, cette politique a permis de créer une ambiance urbaine qui pacifiait, qui a incité le piéton à revenir en centre-ville, et du coup, les commerces également à revenir en centre-ville. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui cherchent à s'installer à Orvieto, justement parce qu'elles sont soucieuses d'offrir à leurs employés une bonne qualité de vie. Voilà. Aujourd'hui, il y a 287 villes qui ont adhéré à ce label Cita Slow, dont les critères, au final, c'est pas simplement ralentir, c'est Mais ça vise la politique d'infrastructure, le développement local, la protection de la biodiversité ou encore la conscience citoyenne et sociale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de résilience et de sobriété, mais par exemple, dans les critères du label qui a donc été défini, comme je vous l'ai dit, à la fin des années 90, on avait déjà, par exemple, favorisé l'alimentation locale, développé les transports doux, favorisé les économies d'énergie. Donc on voit très largement que les politiques promues par ces solicitations, ce n'est pas ralentir pour ralentir, mais c'est avant tout répondre à des enjeux de cohésion sociale, de développement durable, d'accessibilité du centre-ville. En fait, cette lenteur urbaine, ce n'est vraiment pas du passéisme, mais c'est bien un moyen d'offrir une meilleure qualité de vie aux habitants et pour les villes de se réapproprier leur échelle de développement. Un autre exemple de politique publique où on voit que la qualité de vie est au centre de la réflexion, c'est la ville à 30 à l'heure. Alors bien sûr, ce mouvement présente de nombreux avantages côté sécurité. Hein. Une ville à 30 à l'heure, c'est forcément moins d'accidents et une diminution de la gravité des accidents. Mais plus largement, la ville à 30, et c'est d'ailleurs ce que a mis en valeur les villes de Lyon ou encore de Saint-Brieuc qui sont récemment passées à 30 à l'heure, c'est surtout une ville apaisée avec moins de trafic, moins de bruit, moins de pollution, moins de stress. Par exemple, sur la campagne de Saint-Brieuc, on pouvait lire « À Saint-Brieuc, on entend les oiseaux ». Donc on voit bien, ce n'est pas simplement réduire la voiture, c'est avant tout une politique, là encore, pour favoriser une qualité de vie, qui encourage le développement des modes actifs, qui permet de redynamiser les quartiers historiques et commerçants. Et pour, au final, une décélération toute relative, puisque les études, notamment à Lyon, ont montré que grâce à la fluidité de la circulation au passage à 30 à l'heure, la perte de vitesse réelle moyenne n'est que de 1,6 km/h. Donc voilà. Autre mode de repenser le rapport au temps, c'est la question de la décision pour une meilleure cohésion sociale. On l'a dit, hein, la démocratie demande du temps, donc plusieurs collectivités ont fait le choix de prendre du temps. Donc je voudrais, par exemple, c'est notamment le cas du Conseil départemental de Haute-Garonne qui a élaboré une charte du dialogue citoyen qui précise bien que les demandes de démarche de dialogue citoyen supposent un calendrier adapté, puisqu'il faut, ça demande du temps. J'avais d'autres exemples, mais je vais juste revenir sur deux exemples qui nous ont été indiqués lors des précédentes tables rondes. Hein. On nous a parlé d'une collectivité de 18 000 habitants qui avait pris ce temps d'une consultation pour imaginer l'avenir des logements sociaux et permettre aux habitants de s'approprier leurs logements sociaux. Voilà. On nous a parlé plus récemment du département du Nord, qui a également fait ce choix de prendre le temps de consulter les habitants sur les enjeux de patrimoine fluvial. Donc on le voit bien que les démarches participatives de construction, de diagnostic et de recherche de solutions partagées demandent certes du temps en amont, bien sûr, mais c'est surtout un élément central de cohésion sociale. Et souvent, ce temps pris en amont est un temps gagné en aval, puisque la démarche est concertée, il n'y a pas de recours, ça évite le temps de recours. Le temps apparaît vraiment comme un vecteur favorable de réussite du projet. Et je voudrais citer un designer, Patrick Join, qui expliquait que le plaisir est dans le processus qui permet d'avancer, de se connaître, de laisser s'opérer un phénomène de décantation essentiel pour laisser émerger les bonnes idées. Et enfin, rapidement, pour finir sur ma partie, je voudrais rappeler un service public qui a justement fait du temps, invité à la maîtrise du temps, un élément central qui est la bibliothèque. Récemment, on a pu voir apparaître des espaces consacrés à la sieste dans de plus en plus de bibliothèques, y compris universitaires. Mais bien avant l'installation de ces comptes de sieste, les bibliothèques par nature constituent des lieux qui invitent l'usager qui entre dans ces murs à sortir du temps de la ville, à prendre du temps pour lui, temps pour lire le journal, temps pour lire un roman, mais aussi temps pour s'instruire, temps pour étudier. Pour reprendre les mots du sociologue Denis Merklène, la porte de la bibliothèque ouvre un espace qui est protégé du chaos culturel et politique. Et en fait, c'est ça, la bibliothèque, par ses collections, c'est une passerelle, un pont entre deux temps, entre deux individus. C'est par ses services un pont également entre l'individu et la société d'aujourd'hui, notamment la société numérique. Et la bibliothèque permet à l'usager de retrouver de la qualité relationnelle à l'espace et au temps, de la qualité relationnelle à soi, aux autres. En un mot, de retrouver du sens, de se sentir bien. Et en fait, je pense que c'est là le rôle de tout service public, c'est répondre aux besoins fondamentaux de l'homme. Et donc la bibliothèque, c'est répondre à protéger, relier, donner ce sens. Et je pense que c'est ça qu'il faut rappeler aujourd'hui aux élus, c'est que un service public, ça doit avant tout répondre aux besoins de l'homme et pas forcément aller vers toujours plus de vitesse.
Complètement, merci beaucoup Mylène. Et au-delà donc de l'importance de la décélération dans les politiques publiques, des lieux de sieste, par exemple pour Nils Maria que je salue, il y a aussi un enjeu de décélération à l'intérieur même des administrations. Avec finalement la question que j'ai envie de poser à Lucie, est-ce que perdre du temps effectivement à court terme en essayant de prendre un peu de la hauteur, ce qui est extrêmement difficile à vivre dans le quotidien des administrations, ne permet pas in fine d'en gagner beaucoup ?
Effectivement, la décélération peut être également un prisme dans la prise de décision et paradoxalement, permettre de gagner en efficacité. Comme le disait Mylène, le sociologue allemand Hartmut Rosa décrit dans ses travaux une spirale infernale de l'accélération. On a une accélération du rythme technique, on envoie maintenant des mails et plus des lettres. qui mène à une accélération de la société. Puisqu'on n'envoie plus de lettres, on peut faire plus de choses dans une journée, on a plus de temps, qui mène finalement à une accélération du rythme de vie. On fait de plus en plus de choses en même temps dans une vie, qui mène à une accélération du rythme technique, puisqu'on a besoin à nouveau de temps, à une accélération de la société, à une accélération du rythme de vie, et on est reparti en boucle. J'aimerais m'arrêter sur l'accélération du rythme de vie, qui se traduit donc surtout dans la superposition de différentes actions. Je pense que vous avez déjà tous regardé une série tout en cuisinant, tout en répondant à vos messages, tout en réfléchissant à ce que vous alliez faire de vos prochaines vacances. Et c'est surtout cette forme d'accélération qui, d'une autre manière, se perçoit dans l'administration. On peut observer, quand on arrive dans une réunion, les gens posent leur téléphone sur la table pour pouvoir répondre à leurs messages, sortent leur ordinateur pour répondre à leurs mails, ouvrent leur projet de service pour avancer un peu dessus, et écoutent d'une oreille la personne qui présente la réunion tout en lisant d'un œil son PowerPoint. Et au final, on arrive à des situations de stress assez intenses puisqu'on a l'impression de faire 50 choses en même temps, de n'avoir pas le temps de les faire et donc de n'être pas efficace finalement. Donc décélérer, ça peut être aller contre cette superposition des actions pour caler les choses dans le temps. On peut fixer des temps de réunion plus courts où chacun ne fait que ça et concentré sur sa réunion et donc a ensuite du temps pour répondre à tête reposée à ses mails, pour réfléchir à son projet de service, pour répondre à ses messages. Et donc ainsi, on pourrait sortir de ce que Francis Jaurès-Guibert appelle le tourbillon du zapper. Des exemples d'actions concrètes possibles observées dans plusieurs collectivités, ça peut être de fixer des temps de réunion à 45 minutes maximum, quitte à reprogrammer une autre réunion si le sujet n'est pas traité en 45 minutes. Ça peut être aussi de remplacer les traditionnelles réunions de service de début de semaine par une pause café, où chacun, debout, présente ses actualités de la semaine aux collègues. Ça permet non seulement de réduire le temps de réunion, puisque quand on est debout, on a assez vite envie de s'asseoir, mais aussi de créer de la convivialité. Décélérer ces modes de réunion, c'est aussi abandonner certains outils ou certaines procédures qui nous en font perdre. Et en premier lieu, PowerPoint est certes un outil phare des réunions, mais je lui trouve plusieurs inconvénients majeurs. Notamment, il induit parfois une trop grande simplification des argumentations. On passe énormément de temps à le réaliser, à chercher la bonne image qui va illustrer ce qu'on veut dire. Et ça focalise l'attention de nos auditeurs sur l'écran et non sur l'orateur. On peut citer l'exemple des médiathèques de Bressuire qui ont interdit le PowerPoint comme support de présentation lors de leur réunion et qui se sont rendus compte que les débats étaient beaucoup plus intenses et que les agents étaient libérés de ce stress de devoir absolument faire tenir leurs 152 slides en une heure et dire tout ce qu'elles avaient prévu de dire dans ces slides. En parlant de débats, dans l'administration, énormément de choses se jouent dans les couloirs. Et donc décélérer, c'est aussi laisser du temps dans les couloirs, laisser des temps de pause, des temps d'échange autour d'un café où l'on a de nouvelles idées, où l'on prend le temps de s'intéresser à ce que font ses collègues. Et ces temps, on ne les aurait pas si on ne fait que se croiser en courant entre deux réunions pour lesquelles on est potentiellement déjà en retard. Au-delà de la question fondamentale du temps d'échange, pour penser, il faut du temps. Et notamment pour les cadres dirigeants. Ça fait partie de nos missions en tant que cadre supérieur que de penser le service public de demain. Et ça nécessite d'avoir le temps de réfléchir. C'est pour ça que certaines collectivités, par exemple la ville de Villeurbanne, ont interdit les réunions le vendredi après-midi pour libérer à leur cadre du temps de réflexion. Ça fonctionne, c'est parfois compliqué, il y a parfois des réunions qui sont calées le vendredi après-midi, mais globalement, les cadres savent qu'ils ont le vendredi après-midi pour réfléchir à l'avenir de leur service, à l'avenir du service public. Décélérer, c'est donc arrêter de perdre du temps à vouloir en gagner, en supprimant tout intervalle de temps mort. Décélérer, c'est laisser du temps à la pensée. Et de plus, à trop accélérer, on risque d'exploser en plein vol, puisque l'accélération permanente de la décision est également source de plusieurs dangers. Le premier, c'est un danger humain. La vitesse a des limites naturelles, on n'est pas corvéable à merci, on ne peut pas accélérer sans cesse. Et en accélérant toujours tout, on est en train de pousser les agents au burn-out. Comme le disait Mylène, le 21e siècle est le siècle du burn-out. Mais ce burn-out, il mène à un turnover important des agents, donc à une charge de travail augmentée pour ceux qui restent, donc à une accélération, et vous voyez où je veux en venir, ça n'arrange rien. Les difficultés de recrutement de la fonction publique à l'heure actuelle, elles peuvent aussi être liées à cette accélération permanente. En particulier, les jeunes générations sont particulièrement attentives à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et ça implique aussi de se laisser le temps et de parfois renoncer à certains projets pour se laisser le temps de mener des projets de manière efficace et posée. L'idéal, ce serait de penser les carrières en intégrant ce besoin de temps pour respirer. Et notamment de penser les carrières des agents qui ont des conditions de travail impliquant de fortes contraintes. On peut penser aux ATSEM, aux agents de bibliothèque, aux agents d'entretien, pour leur laisser du temps aussi, pour ne pas les pousser à accomplir toujours plus de missions, à remplacer des collègues absents et au final à se briser eux-mêmes. En plus de cela, dans l'administration, on pourrait s'inspirer des bibliothèques pour créer des îlots hors du stress, où les agents peuvent prendre le temps de se former, de réfléchir à leur rôle de demain, de réfléchir à l'image qu'ils veulent renvoyer de leur service. La bibliothèque est un lieu où on entre sans objectif de productivité, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en ressortir, et on pourrait imaginer de créer cela également dans l'administration. Par ailleurs, on a tendance, dans nos projets de service, à ajouter sans cesse des projets, mais sans en enlever aucun, dans l'idéal à moyen RH constant, évidemment. Et pour moi, ça fait partie du courage managérial que de pouvoir dire stop et abandonner des pratiques inutiles, abandonner des projets quand on en ajoute, pour permettre aux agents de mener à bien leurs projets. Décélérer, c'est donc tout simplement assurer le bien-être des agents. Deuxième risque que j'identifie à l'accélération, c'est un risque de conflit d'usage du temps. C'est le cas notamment, encore une fois, avec le nombre important de réunions. Lorsque l'une est retardée, la suivante aussi, puis celle d'après encore. Et on arrive finalement à prolonger des délais parce que la dernière réunion de la journée n'a pas pu avoir lieu. La solution, ce serait d'intégrer des marges entre les réunions, de permettre des temps d'échange entre les réunions et des temps de battement pour, si on prend du retard, pouvoir quand même continuer à avancer. On peut, pour aller plus loin, citer l'exemple des bureaux des temps. On peut penser notamment à celui de Rennes qui a été créé dès 2002. Le bureau des temps de Rennes analyse notamment les mobilités pour proposer des solutions pour décongestionner les transports. Il propose aussi des horaires de service public qui soient adaptés aux enjeux pour la population. En termes de travail, on peut citer une solution concrète proposée récemment, c'est de permettre aux agents ou salariés des entreprises de commencer leur journée en télétravail et ainsi de gagner en sérénité et de prendre la voiture à 10h après les bouchons plutôt qu'à 8h30 comme tout le monde. Ce qui est intéressant dans les bureaux des temps, c'est également qu'ils viennent d'Italie, où ils ont été créés dans les années 80 pour répondre à l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, et donc pour prendre en compte les réalités féminines dans l'usage des temps et les inégalités temporelles entre les femmes et les hommes. Mettre en place un bureau des temps dans une administration, c'est donc pas seulement un moyen de permettre la décélération, mais c'est aussi un moyen d'analyser et de réduire les inégalités femmes-hommes dans l'accès quotidien au temps. Enfin, dernier risque, mais non des moindres que j'observe pour l'accélération, c'est le risque d'erreur. Plus on accélère, moins on a de temps de cerveau disponible pour prendre une décision dans l'urgence. Ce temps, il se dégage aussi en limitant le nombre de procédures. On a tendance dans l'administration à ne pas vouloir accepter l'imprévisible, à créer des procédures pour toute situation qui un jour peut-être éventuellement pourrait arriver. Et il faut parfois savoir limiter ces procédures à l'essentiel pour pouvoir prendre une décision adaptée et savoir être dans la résilience plutôt que dans la prévision. C'est par exemple le cas lors de la gestion de la situation Covid. Partout, il a fallu prendre des décisions qui n'étaient pas prévisibles et on l'a fait. La décélération est donc nécessaire, et en particulier pour les postes dits à responsabilité. Elle permet de recharger ses batteries. Une décision qui est prise en situation de crise par quelqu'un d'épuisé est forcément mauvaise. Si lors de la situation de crise, au contraire, la personne a eu le temps de s'occuper de ses dossiers, de s'approprier les enjeux, sa décision sera meilleure. Perdre en efficacité, c'est donc savoir en gagner lorsque les enjeux sont grands. Il vaut mieux une décélération volontaire et maîtrisée, plutôt qu'une décélération contrainte qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Enfin, c'est notre rôle en tant qu'administration que d'être garant du temps long. La politique et le temps du temps court, c'est rythmé par les mandats. Les projets s'accélèrent, en particulier en fin de mandat. Et c'est à l'administration d'assurer une forme de stabilité dans cette accélération. Cette stabilité, elle passe par le fait de prendre le temps, comme le font par exemple les bureaux de prospective dans les collectivités, qui prennent le temps de prévoir le territoire à 10 ou 20 ans. C'est également dans cette administration qu'on trouve les bureaux des temps d'ailleurs. Nietzsche, au XIXe siècle, identifiait déjà l'administration comme un garde-fou face à l'accélération du temps. Il écrit « On vit au jour le jour, on vit très vite, on vit de manière irresponsable, c'est cela qu'on appelle liberté. Ce qui fait que les institutions sont les institutions, on le méprise, on le déteste, on le repousse. Mais ce qui fait que les institutions sont les institutions face à cette liberté, c'est aussi leur lenteur. Si cette lenteur peut parfois être absurde, il ne s'agit pas pour l'administration de s'administrer, mais la lenteur des institutions fait également la stabilité du territoire. C'est le cas en particulier pour les projets de développement durable, qui n'auront pas d'impact à court terme. Ils nécessitent de s'inscrire dans le temps long. À court terme, il sera peu rentable de refaire l'isolation du bâtiment. Et donc politiquement, ça peut éventuellement être moins porté parce que ça ne s'inscrit pas dans le temps du mandat. Mais les effets à long terme en seront bénéfiques pour la collectivité. C'est donc notre rôle que de conseiller les élus sur le temps long et de s'approprier les enjeux du territoire à 10, 20 ou 30 ans. Pour finir, décélérer, c'est aussi se dégager du temps pour les projets importants. L'accélération, elle fait que l'on travaille de deadline en deadline sur des projets de temps court. Se dégager du temps, c'est permettre aux projets au long cours de voir le jour. Pour Niklas Luhmann, on observe généralement un décalage entre nos valeurs, qui représentent le temps long, par exemple le développement durable, l'égalité femmes-hommes, la construction d'un nouvel équipement qui réponde vraiment à toutes les attentes des citoyens, et ce à quoi on consacre son temps, qui est le temps court, les réunions, l'urgence de telle porte qui ne ferme plus, le quotidien. Décélérer, c'est donc laisser la place à ces valeurs et laisser la place au projet de temps long de s'installer. On a tous choisi le service public pour les valeurs qu'il représente, et donc je conclurai cette partie en disant que décélérer, ce n'est pas uniquement un gain de temps et une réponse à de nombreux risques, mais c'est avant tout se laisser le temps de porter ses valeurs.
Toujours difficile de faire la transition après, mais je pense qu'on peut applaudir. Bon courage, Steve, pour passer après. Donc, on a compris, décélérer, ce n'est pas ne pas faire, c'est mieux faire. Et pour mieux faire, il faut aussi évaluer. Évaluer à la fois les effets de la décélération, mais aussi parce que décélérer, prendre le temps, permet d'évaluer ce qui est fait par ailleurs. Et sur cette question, je laisse Steve conclure.
En effet, j'en arrive à la partie sur la décélération comme indicateur d'évaluation dans les politiques locales, un ensemble de notions, l'évaluation, qui a déjà été abordée par Mylène et Lucie précédemment, par exemple avec le bureau des temps. Un bureau des temps, ça n'est rien d'autre finalement que l'évaluation des temps libres et moins libres des administrés. Donc je vais plutôt essayer de prendre un peu de hauteur sur l'intérêt d'évaluer et en quoi la décélération peut être un angle d'évaluation. Le concept, si la décélération est un vecteur de bien-être pour les administrés, comment l'évaluer ? C'est quand même difficile à objectiver à premier abord. L'évaluation des politiques publiques se fait le plus souvent par des indicateurs quantitatifs. On aime les chiffres. Les indicateurs qualitatifs sont plus rares et le plus souvent inexistants. La capacité des collectivités à évaluer qualitativement les politiques est un enjeu transversal, comme l'évoquait Valérie Charolle lors de la plénière de ce matin. Donc la décélération est l'occasion de mettre en place des indicateurs qualitatifs. Avant ça, je ne peux pas ignorer quand même l'ensemble des indicateurs quantitatifs qui touchent à la décélération. Un exemple assez facile, les budgets à base zéro. Pourquoi je dépense cet argent-là ? Un principe qui s'associe facilement à cette nouvelle logique de sobriété, valoriser ce que l'on ne fait pas. Décélérer, c'est redonner du sens pour les administrés comme pour les agents. Côté évaluation qualitative, lorsqu'ils existent, les indicateurs qualitatifs, ils consistent le plus souvent en des compilations de réponses à des questionnaires de satisfaction qui sont soit ponctuels, donc ne permettent pas un suivi comparatif, soit ils consistent en des formats de consultation réglementaire. Par exemple, dans les PCAET, on prévoit une série d'indicateurs quantitatifs, une consultation réglementaire obligatoire après validation de l'autorité environnementale. Donc la consultation réglementaire est déjà une occasion d'interroger la dimension qualitative des effets. Mais c'est quoi cette dimension qualitative et ses effets ? On se permet de la définir comme la transversalité des projets, son interdisciplinarité. Par exemple, les projets de transition ne peuvent pas se contenter seulement d'analyse et d'ingénierie technique. Ces projets doivent aussi apprécier une analyse sociologique, donc politique, au sens de la cité faire société. Comment assurer cette dimension socio-économique transversale ? La meilleure réponse que l'on ait trouvée, c'est une approche en ingénierie systémique qui devient un domaine managérial à part entière. L'exemple de la commune de Malonnet au nord de Rouen aborde tous ses projets en ingénierie systémique. Malonnet est entre autres précurseur avec un projet d'autoconsommation énergétique. L'approche en ingénierie systémique permet l'évaluation en amont de la qualité des projets, y compris dans le prisme de la décélération que l'on peut choisir d'inclure au projet. J'essaie de passer vite sur la question des labels, mais qui pour moi illustre assez bien les tensions entre accélération et décélération. La décélération, c'est avant tout une meilleure qualité d'accueil des publics et un objectif d'optimisation et de qualité de service. Mais la décélération, c'est aussi un prisme de décision en interne pour la qualité des conditions de travail. Lucie en a bien parlé. En interne, lorsque l'accélération n'est pas seulement occasionnelle en raison d'une urgence, mais permanente, le stress survient, la qualité de travail est dégradée. Ne prend-on pas une décision d'autant mieux que l'on dispose de tous ces moyens cognitifs ? On aime beaucoup les labels, l'exemple de Caliville en matière de qualité d'accueil. Tous les critères peuvent être labellisés, tous les critères pour être labellisés Caliville ne vont pas nécessairement dans le sens de la décélération. Par exemple, le très fameux critère de réponse dès la deuxième sonnerie au standard téléphonique, ça consiste tout de même en une accélération, notamment pour les agents. Un contre-exemple dans le label Caliville, c'est la diversité des moyens de contact pour l'usager avec l'administration, qui est vecteur de décélération et de qualité de service. Pouvoir écrire un mail avec la garantie d'une réponse avec la même qualité qu'un appel téléphonique, c'est une contrainte temporelle en moins pour les usagers. Donc, je nuancerai en disant que les labels permettent une évaluation de la qualité des services, mais pas toujours dans le sens de la décélération. Cependant, décélérer ne signifie pas réduire le nombre de services. Du coup, les labels nous imposent des prismes d'évaluation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour maîtriser une évaluation qui laisse toute sa place à la décélération ? Pour ne pas se voir imposer des critères, il faut les définir soi-même, à l'échelle de la collectivité. Pour cela, la définition locale d'indicateurs qualitatifs de décélération, en autonomie et j'ose dire conformément à un certain principe de différenciation, est l'occasion d'associer la population d'un territoire à cette démarche d'évaluation. Au-delà de l'exemple des consultations réglementaires, je prenais l'exemple des PCAET, il y a des consultations qui ne sont pas obligatoires du point de vue de la loi, et qui permettent de mener des politiques de démocratie implicative. Je passe sur les nombreux exemples de comités citoyens que l'on connaît, mais je relève l'exemple de la ville de Kingersheim, au nord de Mulhouse, où on y organise des consultations non obligatoires avec des citoyens volontaires ou appelés sur la base des listes électorales. Presque chaque délibération contient des décisions ayant fait l'objet d'une consultation non obligatoire préalable. Dans ce type de projet, on apprécie la synergie entre la participation, la pratique de la citoyenneté, le pouvoir de l'autorité publique, non pas appuyé sur une administration, ce pouvoir, mais appuyé sur l'implication des habitants, comme nous y a encouragé Frédéric Gilly ce matin. Définir localement des critères d'évaluation, c'est l'occasion de la participation de la population à la définition de ces critères, donc à la constitution d'une communauté locale en accord avec les principes qu'elle veut pour ses services publics locaux, par exemple en matière de décélération, donc de qualité de service. C'est l'occasion de faire communauté, autrement dit. En conclusion, et je te repasse la parole ensuite Pierre, décider dans le prisme de la décélération et de la qualité d'accueil des publics, c'est le lieu des paradoxes. La décélération n'est donc pas un goût pour la mollesse ni un programme de décroissance économique, mais un objectif d'efficacité et un objectif de qualité d'accueil. La décélération, c'est un besoin vis-à-vis de la qualité d'accueil des administrés. Un service public, ça répond à un besoin et non pas à une demande. La demande, il faut y répondre, mais elle peut avoir un effet cumulatif, on en veut toujours plus, et la demande aura un effet pervers d'accélération sans cesse. Donc décélérer, en somme, c'est prolonger la logique nouvelle de sobriété et valoriser ce qui est épargné. C'est décider sur la base de besoins et pas seulement de demandes. Donc c'est renforcer le sens de l'action publique et c'est garantir d'avoir toujours le public pour finalité.
Merci beaucoup. Et en guise d'ouverture, on aimerait d'abord, avant de vous permettre de réagir, d'accord, pas d'accord, quelles expériences concrètes vous avez vécues viennent infirmer ou confirmer le parti pris de cette présentation, vous inviter à aller voir demain l'atelier Décider dans l'urgence, puisque c'est des parallèles à faire avec ce qu'on dit qui ne sont pas forcément contradictoires. Donc allez voir nos collègues demain. Je vous laisse réagir. Questions, remarques, je ferai passer le micro. Éric et Colin. Ouais.
Merci énormément pour la qualité de la présentation. Moi, j'étais venu un peu bébête en me disant je vais être un peu provocant. Est-ce que c'est vraiment la place de la fonction publique de se positionner sur la décélération quand on sait les difficultés que beaucoup de nos concitoyens ont face à l'administration en termes de délai? Et je pense aux tribunaux, je pense aux urgences, aux hôpitaux justement, et où un des grands reproches qu'on fait quand même à l'administration aujourd'hui, c'est que c'est très lent. Et donc, il y a beaucoup de choses en termes de complaintes. Mais en vous écoutant, j'ai grandi déjà pendant ces quelques minutes. Et je me suis demandé à travers votre discours si ce que vous essayez pas de traduire, c'est le fait qu'on est dans une société qui est fracturée et que la notion autant est une fracture supplémentaire entre une jeunesse qui est aujourd'hui extrêmement agile sur les réseaux sociaux et sur la sollicitation permanente de l'informatique, et puis une partie de la population qui est plus lente, qui va moins vite, qui a besoin d'être accompagnée. Et est-ce que finalement, à travers vos propos, vous avez réfléchi à ces questions et comment on pourrait réduire cette fracture temporelle et cette fracture par rapport à la vitesse? Et on le voit aujourd'hui, il suffit d'aller à Paris entre ceux qui sont en trottinette électrique et ceux qui sont à pied avec leurs poussettes. Donc c'est pas uniquement les jeunes contre les vieux, mais on voit que le temps, la relation au temps fracture encore plus notre société. Et donc j'aimerais savoir comment on pourrait résoudre ensemble cette nouvelle fracture qui se rajoute à tant d'autres fractures de notre société. Merci beaucoup.
Merci pour cette question. Comment y répondre? Personnellement, c'est vraiment un avis personnel. Je crois que c'est la multiplicité des canaux de communication avec les publics qui le permet. On l'a un petit peu dit, l'e-administration, dans un premier temps, c'était un ensemble de canaux complémentaires du guichet, mais progressivement, il faut savoir le reconnaître, on a quand même beaucoup supprimé de guichets, ce qui impliquait d'ouvrir désormais que des canaux numériques. On pense à la déclaration d'impôt, dont on entend beaucoup parler en bibliothèque, on nous demande beaucoup d'accompagner les gens sur leur déclaration d'impôt, ça pose des questions, je passe. Donc je pense que c'est vraiment la pluralité des canaux de communication qui répond à cette fracture. Et si je fais un petit pas en arrière sur le début de ta question, en effet, il y a des services qui sont encombrés, tu as donné d'excellents exemples. Moi, je pense qu'on est quand même héritier d'un droit romain qui aime énormément réglementer et qui aime beaucoup prévoir l'imprévisible. J'essaie de synthétiser, mais si bien que, y compris dans les règlements intérieurs de bibliothèques, on a parfois des injonctions de nos équipes à prévoir des situations qui ne se sont jamais présentées. Si un usager, je ne sais pas, est violent envers un autre, comment il convient de réagir? En fait, ça n'est qu'un ensemble de cas particuliers et il serait bien difficile de réglementer en avance une situation qui ne s'est pas encore présentée. Et ça, c'est un peu, de mon point de vue, le défaut du droit romain, cette volonté toujours de prévoir l'imprévisible. Et ça se traduit concrètement avec notre obsession, et là aussi c'est un point de vue personnel, à la procédure. On aime beaucoup, beaucoup mettre des procédures en place, et je crois personnellement que la réponse lente à des besoins fondamentaux, elle s'explique aussi beaucoup par cette obsession de la procédure, je veux un cadre précis, et il en faut un évidemment. Mais parfois, peut-être peut-on faire un petit peu le ménage dans nos procédures, et Lucie nous en a dit un mot d'ailleurs.
Oui, je rebondis tout à fait en accord avec ça. Alors, je prends par exemple l'exemple des hôpitaux, puisque tu as cité l'hôpital. Je suis fille d'une secrétaire médicale, donc je connais bien ce milieu-là. Effectivement, l'impression aujourd'hui de manque de temps dans les hôpitaux, c'est surtout parce qu'on a demandé aux infirmières de plus en plus de procédures. Il faut savoir qu'une infirmière, maintenant, pour donner un médicament, il faut qu'elle remplisse un dossier, enfin, avant de donner une pilule à quelqu'un. Parce que justement, on a peur des procès, on a peur tout ça, donc on a fait beaucoup de procédures, ce qui demande beaucoup de temps, en fait. Donc voilà, on a accéléré les procédures et au final, aujourd'hui, les personnes manquent de temps. Et donc, décélérer dans l'hôpital, c'est peut-être effectivement revoir ces nombres de procédures pour qu'une infirmière redevienne une infirmière qui donne des médicaments et peut-être tout simplement se reposer la question de réembaucher des gens pour faire les dossiers administratifs. Mais bon, ça, c'est encore une autre question. Mais pour moi, on rejoint la décélération à l'hôpital, ça serait revoir les procédures pour justement donner plus de temps aux infirmières et comme ça, on réduirait le temps d'attente des patients.
Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à une fracture dans notre société entre ceux qui vont vite et ceux qui vont moins vite. C'est un fait, mais qu'on observe toujours. Si vous regardez une cour d'école, il y a des enfants qui courent vite, d'autres qui courent moins vite. Il y a des gens qui comprennent vite, d'autres qui comprennent vite, mais à qui il faut expliquer longtemps. Et décélérer, c'est prendre ce temps, justement. On a tendance, dans notre société, à partir de ceux qui vont le plus vite et à les considérer comme la norme. Or, si on décélère, on prend aussi en compte les besoins des gens qui vont plus lentement. Ceux qui vont plus vite iront toujours plus vite. Il ne s'agit pas, par exemple, de supprimer les procédures l'e-administration. Ceux qui la maîtrisent iront plus vite avec ça, et c'est un besoin. Mais il ne s'agit pas de laisser pour compte toutes les personnes qui ne maîtrisent pas cette e-administration, qui ont besoin du temps pour comprendre, qui ont besoin de quelqu'un en face d'eux. Et donc, décélérer, c'est... On ne supprimera pas cette fracture dans la société, mais décélérer, c'est laisser une place à chacun.
Alors merci à vous pour cette présentation qui est absolument passionnante et qui pose des questions, je pense, qui vont tous nous travailler dans notre carrière et qui nous travaillent déjà. J'ai une petite question sur la sensibilisation. J'ai été très touchée par ce que disait Mylène donc sur le fait que les agents sont en souffrance du fait d'une accélération perpétuelle et que cette accélération elle est aussi dictée par la peur de s'arrêter. La peur de s'arrêter parce qu'on pourrait être blâmé, on pourrait ne pas répondre à des objectifs, etc. Un constat ce matin en me connectant sur LinkedIn, comme toutes les personnes qui sont à ce congrès, je suis tombée sur un article sur le quiet quitting, donc cette pratique des individus qui sont au travail, qui n'en font pas forcément plus que ce qu'on leur demande, et qui, à la fin de leur temps réglementaire de travail, ferment leur ordinateur, ce qui est à peu près normal, en tout cas ce qui est dans les cadres du droit, mais qui est vraiment considéré comme une pratique abusive. La traduction française, c'est la démission silencieuse. C'est quand même un terme qui est très fort. Donc on voit bien qu'il y a une vraie dénonciation des personnes qui, tout simplement, respectent leur temps de travail et n'en font pas forcément plus, ne font pas d'excès de zèle. Donc ma question, c'est comment sensibiliser à la fois les agents et aussi les décideurs au fait que décélérer, ou en tout cas ne pas s'épuiser en cours de route pour parfois des objectifs redondants, ce serait une bonne chose. Comment faire, en fait, nous, en tant que représentants du service public, pour sensibiliser nos décideurs à ces questions ?
Déjà, je voulais saluer vraiment la qualité de la table. Enfin, vous avez super bien préparé ça, les collègues. Et c'était plutôt un témoignage, enfin, ça rebondait sur ce que disait Eric sur la fracture. Je crois que vraiment, c'est nous, on la vit dans les bibliothèques, cette fracture, on la vit au quotidien. Et là, c'est juste un chiffre à donner en témoignage. On était en projet collectif, conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, sur la mise en place d'une stratégie de résilience territoriale. Et ce qu'on a observé, en effet, c'est, Mylène, tu l'as très bien illustré par ton exemple avec ta maman, les travailleurs sociaux, aujourd'hui, sont vraiment engorgés dans ces procédures administratives et n'ont plus le temps de prendre soin des administrés pour lesquels ils doivent travailler. Et au jour d'aujourd'hui, le Secours Populaire Français, on a rencontré le Secours Populaire Français de Pantin, ils nous ont dit qu'ils ont évalué à plus de 20 000 heures temps bénévole pour l'année 2020, le temps de discuter avec les personnes qui sont perdues, qui ne font plus appel aux administrations parce qu'elles ne comprennent plus. Il n'y a plus de personnes à qui s'adresser. L'e-administration, c'est compliqué, c'est pas accessible à tous. C'est pas parce que les gens vont plus lentement, c'est parce qu'ils n'ont pas les codes. Et tout ce temps-là de compréhension des codes pour aller les uns vers les autres, ça prend du temps. Et il nous expliquait, une personne qui arrive, c'est 2 heures au moins pour se comprendre, pour se faire confiance. Et ce temps-là, on ne l'a plus. Et nous, dans les bibliothèques, on est en train de gérer ça. Et c'est ce temps-là, nos agents en bibliothèque, ils passent ce temps-là. Et c'est pour ça que les personnes viennent dans les bibliothèques remplir leurs dossiers. Comme tu le dis bien, Steve, on accompagne les gens à remplir leurs feuilles d'impôt. OK, peut-être qu'on va devenir ça, mais ça me semble un sujet vraiment prégnant et primordial parce qu'il y a un enjeu de cohésion sociale. Notre société est aujourd'hui fracturée et c'est un bel exemple. Je trouve que vous avez bien illustré ça.
Merci Pauline pour ton témoignage. Colline, pour répondre peut-être brièvement, je pense qu'on a un rôle de modèle à jouer en fait en tant que cadre. Si nous on décélère et qu'on accepte de ne pas envoyer de mail à 23h à nos agents, et ben peut-être qu'on leur fera comprendre qu'il n'est pas nécessaire qu'eux soient connectés également à leur mail à 23h ou minuit. Les mails, ça se programme, on peut les rédiger à 23h si vraiment on n'a pas le temps. Personnellement, je suis contre, mais je n'ai pas encore été en poste en tant que directrice, donc peut-être que je changerai d'avis. Mais on peut le rédiger à 23h et le programmer pour qu'il soit envoyé à 9h et donc que l'agent ne le reçoive pas sur son téléphone le soir avant d'aller se coucher. C'était pour répondre brièvement, peut-être que vous voulez rebondir.
Non, et puis je rajouterais juste une chose, c'est aussi faire attention à la charge de travail qu'on confie à un agent. Hein. Effectivement, la durée du temps de travail d'un agent, c'est 35 heures, hein, 1607 heures par an. Donc il ne faut pas non plus lui en demander plus, on n'a pas le droit de lui en demander plus légalement, donc aussi peut-être revoir ça. Et admettre que tout ne sera pas fait en une semaine. Il faudra peut-être qu'un jour, mais c'est peut-être pas la même, enfin peut-être pas la fin du monde pour autant.
Ouais, juste une interpellation collective. Tout à l'heure, vous avez dit, je crois que c'est vous qui avez dit que c'était pas décélérer, c'est pas forcément la décroissance. Eh bien, pourquoi pas? Si la croissance, ce n'est que la monétarisation folle, l'accélération de la consommation des ressources naturelles, l'impossibilité pour la nature de récupérer l'exploitation de ses ressources, etc. Donc il ne faut pas forcément rejeter ça, déconnecter ça, c'est un sujet. Alors à la bibliothèque, à la librairie, il y a un bouquin qui s'appelle « Ralentir ou périr », qui est un économiste qui fait un carton en ce moment, donc voilà, il faudra le lire, il faudra prendre le temps de le lire, voilà. Juste une petite plaisanterie, mais une de nos missions, peut-être, ce sera de discerner les temps qui doivent être lents, plus lents. Par exemple, le soin nécessite, y compris peut-être pas seulement donner un médicament, mais donner un petit mot gentil à la personne qui est malade et qui souffre et qui attend aussi un peu d'humanité. Je vais prendre un autre exemple, puisqu'on a parlé de la justice. C'est la justice, le risque d'une justice expéditive. Tant pour la personne mise en cause que pour la victime. Or, il faut du temps pour accepter non seulement l'instruction de l'affaire, mais même aussi pour faire l'acceptation du futur verdict qui sera jugé pour l'un trop clément, pour l'autre trop sévère, etc. Donc, il y a des processus humains à réintégrer dans cette gestion des temps. Voilà, donc pourquoi pas accélérer sans tomber dans la frénésie de la deuxième sonnerie du téléphone, hein. Mais il y a des sujets sur lesquels il faut dire, non, écoutez, il n'y a pas de problème, il y a 15 jours, vous aurez la réponse en 15 jours, et vous n'êtes pas tous obligés de courir sur son ordinateur pour commander sur Amazon un livre, parce qu'il doit arriver instantanément dans ma boîte aux lettres, alors que je mettrais peut-être 10 jours à le lire tranquillement, etc. Donc, à nous, en tant que professionnels, de décoller aussi ces différents temps et puis de leur affecter le bon temps nécessaire. Puis un dernier point, puisqu'on a parlé des fractures sociales, il y a une grande partie de la société qui fonctionne grâce au temps donné. Ça s'appelle le bénévolat. Ça n'est pas chiffré, ça n'est pas dans le PIB. Sans le temps donné, il n'y aurait pas de fonctionnement aujourd'hui d'un certain nombre de vies, simplement la subsistance. On entend les étudiants qui crèvent de faim là, parce qu'ils n'ont plus les moyens de se nourrir. S'il n'y avait pas tous ces gens qui donnent du temps, la société française et la cohésion sociale souffriraient gravement.
Je vous remercie pour vos remarques et je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit et j'ai rien à ajouter, sinon qu'on a voulu avoir cette rigueur intellectuelle de distinguer décélération de décroissance, mais en effet, ce sont des sujets évidemment connexes. Et puis, au sujet d'Amazon, je ne peux pas m'empêcher de le dire, sachez que vos libraires indépendants rendent le même service, quoi.
Merci beaucoup en tout cas et bravo encore.